Le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le puissant général iranien Soleimani a été tué cette nuit par les États-Unis en Irak, augmentant un peu plus la tension dans la région. Nous dresserons le portrait de ce général haut placé chez les gardiens de la révolution en Iran. D'ailleurs, l'ayatollah Khamenei et le président Rouhani crient déjà à la vengeance. Analyse complète à suivre.
Et puis on se penchera ensuite sur la décision turque d'envoyer des troupes en Libye. Le Parlement turc l'a validé pour repousser l'offensive d'un maréchal à Tripoli.
Les feux de forêt continuent de progresser en Australie. Des milliers de personnes fuient leurs habitations sur la côte sud-est et les critiques se multiplient à l'égard du Premier ministre australien, vous l'entendrez.
Dans ce journal aussi, l'agenda du Premier ministre Édouard Philippe, il organise aujourd'hui une réunion de travail avec, en toile de fond, l'ouverture d'un nouveau front de mobilisation dans les raffineries.
Et nous retrouvons d'ailleurs Frédéric Saïs pour son billet politique après ce journal. Il sera question de la réforme des retraites. Frédéric qui s'intéresse ce matin à la stratégie de l'individualisme du gouvernement. Il était l'une des figures des gardiens de la Révolution, un éminent représentant iranien en Irak. Le général Qassem Soleimani a été tué cette nuit par les Américains près de l'aéroport de Beyrouth, de Bagdad, en Irak. Cette frappe était destinée à dissuader l'Iran de tout projet d'attaque. Voilà ce que dit le Pentagone dans un communiqué. Il confirme que Donald Trump a donné l'ordre de tuer ce général iranien. Le président américain a d'ailleurs tweeté l'image d'un drapeau américain dans la nuit comme une revendication. Au total, 8 personnes seraient mortes dans cette attaque. Nous sommes avec notre correspondant dans la région, Aurélien Colli, bonjour.
Bonjour Clara.
La victime visée est donc le général Qassem Soleimani, un Iranien très influent au Moyen-Orient, Aurélien.
Oui, le général Soleimani, 62 ans, un homme très populaire, très important dans les appareils politiques et militaires du régime iranien, un commandant discret mais considéré comme l'homme clé de l'influence de Téhéran dans toute la région, puisqu'il dirigeait la force Al-Quds, unité d'élite des gardiens de la Révolution, chargée des opérations extérieures de l'Iran. Qassem Soleimani était l'artisan du soutien iranien au régime de Bachar al-Assad en Syrie, au Hezbollah libanais, aux Houthis du Yémen ou encore aux milices chiites en Irak. La nuit dernière, il a d'ailleurs été tué avec l'un de leurs chefs. Le général Soleimani était connu et craint dans toute la région et en Iran, où il était aussi très respecté pour son parcours, pour son engagement idéologique et pour ses liens étroits avec le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Il avait déjà échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Pour les États-Unis, c'est lui qui a orchestré plusieurs attaques contre des bases de la coalition en Irak ces derniers mois. Washington le tient aussi responsable des violences cette semaine contre l'ambassade américaine à Bagdad.
Voilà donc pour le portrait de Soleimani. Sa mort, évidemment, a déclenché, Aurélien, des réactions très virulentes en Iran.
Oui, c'est une figure du régime qui a été tuée pour Téhéran. En le tuant, les États-Unis frappent directement le cœur de la République islamique, quasiment une déclaration de guerre. C'est une escalade extrêmement dangereuse et insensée, a réagi sur Twitter le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Zarif, en prévenant les États-Unis qu'ils portaient la responsabilité de toutes les conséquences de leur aventurisme renégat. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a été encore plus virulent en promettant une terrible vengeance pour les criminels qui l'ont assassiné. Téhéran a également convoqué un responsable de l'ambassade de Suisse qui représente les intérêts américains en Iran pour faire passer un message. L'assassinat du général Soleimani est un exemple flagrant du terrorisme d'État américain. Les États-Unis qui sont pleinement responsables de ses conséquences. Une réunion extraordinaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien doit se tenir ce matin à Téhéran. La réponse à cet assassinat sera évidemment à l'ordre du jour, mais peu probable qu'elle soit immédiate. Ce n'est pas le genre du régime iranien qui a décrété 3 jours de deuil national. Il faut en fait s'attendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à une tension maximale avec des représailles possibles dans toute la région.
Merci beaucoup Aurélien Colli pour ces précisions factuelles, ces réactions déjà ce matin. Nous sommes également avec Grégory Phillips, correspondant à Washington de France Culture. Les États-Unis où le Pentagone a rapidement annoncé la mort du général Soleimani cette nuit. Cette frappe était destinée à dissuader l'Iran de tout projet d'attaque. Voilà ce qui était écrit dans un communiqué, nous le disions tout à l'heure. Sauf que Grégory Phillips, la décision a été prise unilatéralement par Donald Trump sans que le Congrès américain soit au courant.
Oui, en tout cas, c'est ce que les représentants démocrates affirment, que le Congrès n'a été ni consulté ni même informé de cette opération militaire d'une extrême gravité, dit le patron démocrate de la Commission des Affaires étrangères. Toujours dans l'opposition, réaction très ferme aussi du candidat à la présidentielle Joe Biden pour l'ancien vice-président de Barack Obama. Donald Trump vient tout simplement de lancer un bâton de dynamite dans une poudrière. Et pour une autre candidate à la Maison-Blanche, la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, cette escalade augmente encore un peu plus le risque d'une guerre coûteuse au Proche-Orient. En revanche, les élus républicains évidemment soutiennent l'initiative du président. Lindsey Graham, le sénateur de Caroline du Sud, qui est un proche de Trump, salue une action courageuse et menace encore les Iraniens et leurs installations pétrolières. Si vous en voulez plus, vous en aurez plus. Quant à Donald Trump, il n'a pour l'instant pas fait le moindre commentaire, si ce n'est ce tweet sibyllin publié quelques minutes avant le communiqué du Pentagone, un simple drapeau américain comme pour annoncer, avant que ce soit officialisé par le ministère américain de la Défense, la mort de ce général iranien qui, évidemment, est bien plus qu'un simple haut gradé.
C'était Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Sur un autre terrain de guerre, avec l'approbation cette fois d'un parlement, les députés turcs ont validé hier l'envoi de troupes en Libye pour y soutenir le gouvernement libyen. Ankara souhaite repousser l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. Il tient en fait l'est de la Libye et il mène depuis 8 mois maintenant une offensive en direction de la capitale, Tripoli. Il faut l'en empêcher, selon la Turquie, et par tous les moyens, dit-elle. Omar Waman.
En choisissant de soutenir militairement le gouvernement qui siège à Tripoli, la Turquie dit se placer du côté du droit international. Ce gouvernement est en effet soutenu par l'ONU. Mais ce soutien, d'abord officieux, avec l'envoi ces derniers mois de matériel militaire, est désormais officiel. Déploiement de conseillers, de moyens aériens et terrestres, Ankara est déterminé à repousser l'offensive du maréchal Haftar qui menace la capitale Tripoli. Cet appui turc s'ajoute à celui très actif du Qatar, alors que dans le camp d'en face, l'homme fort de l'Est libyen peut compter sur l'aide de l'Égypte et des Émirats arabes unis, sans oublier celle des États-Unis et de la France au nom de la lutte contre le terrorisme. Si la Turquie est bien décidée à défendre ses intérêts économiques, elle a investi des milliards d'euros en Libye, ses manœuvres militaires risquent d'aggraver une situation déjà chaotique. L'Égypte du maréchal Sisi a prévenu qu'elle n'autoriserait personne à contrôler la Libye. C'est une question qui relève de sa sécurité nationale.
C'est moi seul qui ai organisé mon départ du Japon vers le Liban. Carlos Ghosn défend ainsi sa femme soupçonnée de l'avoir aidé à fuir en début de semaine. L'ancien PDG de Renault-Nissan est toujours donc au Liban. Le Liban qui a d'ailleurs reçu hier une demande d'arrestation de la part d'Interpol à l'encontre de Carlos Ghosn. Partons maintenant en Australie où des milliers de personnes tentent de quitter la côte dans le sud-est du pays. Elles fuient les gigantesques incendies. Hier soir, la marine nationale a commencé à évacuer une ville entière menacée par les feux de forêt. Au total, au moins 20 personnes sont mortes depuis le début du mois de septembre. Des dizaines d'autres sont portées disparues. Plus de 1300 maisons ont été réduites en cendres. Une surface équivalente à 2 fois la Belgique a brûlé. Et pendant ce temps, le Premier ministre australien ne fait rien ou presque. Nous faisons le point ce matin avec Grégory Pless depuis Sydney.
Sauf qu'il peut général en Nouvelle-Galles du Sud, où même les pompiers font part de leur impuissance face à ces feux totalement incontrôlables.
On ne peut pas arrêter ces feux. Les gens doivent rester concentrés. Demain, il ne faudra pas baisser la garde. C'est très sérieux.
Dans le Victoria, où a été déclaré un état de catastrophe naturelle, le Premier ministre de l'État, Daniel Andrews, en appelle lui à la responsabilité individuelle.
On ne peut pas garantir votre sécurité. On a tous un rôle à jouer. Si vous pouvez évacuer, vous devez le faire.
Le bilan des incendies s'alourdit chaque jour un peu plus. Le Premier ministre conservateur Scott Morrison a été reçu jeudi soir par les habitants d'une petite ville ravagée par les incendies.
Pourquoi nous n'avons eu que 4 camions de pompiers pour défendre notre ville? Nous ne sommes pas très riches, mais nous avons des cœurs en or, monsieur le Premier ministre.
Ne reviens pas, t'es pas le bienvenu ici. Casse-toi!
Même dans son propre camp, il commence à être lâché. Andrew Constance, ministre des Nouvelles-Galles du Sud et membre du Parti libéral, a déclaré aujourd'hui qu'il l'avait bien mérité.
C'était Grégory Pless à Sydney pour France Culture. Les socialistes espagnols pourront a priori former un gouvernement de coalition avec le parti de gauche Podemos. Ils vont bénéficier lors du vote de confiance demain de l'abstention de certains députés. Le parti indépendantiste catalan, l'ERC, a accepté cette abstention. Et cela ouvre de fait la voie à la reconduction du socialiste Pedro Sanchez à la tête du gouvernement espagnol.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal, les réunions de travail reprennent au gouvernement sur la réforme des retraites.
Oui, après quelques jours de vacances en Normandie, le Premier ministre est de retour à Paris. Édouard Philippe avait été publiquement chargé par Emmanuel Macron lors des vœux du 31 décembre dernier de trouver la voie d'un compromis rapide sur cette réforme des retraites. Avant de rencontrer les partenaires sociaux la semaine prochaine, il prépare donc cette reprise des négociations dès maintenant. Anne Fauquemberg.
Pas une minute à perdre. Dès ce matin, Édouard Philippe a rendez-vous avec quatre de ses ministres, dont le nouveau secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski, mais aussi la ministre des Transports, Elisabeth Borne, son secrétaire d'État, Jean-Baptiste Djebbari, et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Ils feront le point sur la mobilisation dans les transports, mais il sera surtout question d'affiner la prise en compte de la pénibilité qui sera au cœur des discussions la semaine prochaine, tout comme les aménagements des fins de carrière et le minimum retraite. Les ministres seront aussi briefés sur les concessions possibles sur l'âge pivot, sachant qu'Édouard Philippe reste ferme, précise un conseiller. Pas question de délier cette réforme des retraites et le nécessaire besoin d'équilibre financier dans le futur système. Quant à ce nouveau front syndical dans les raffineries et les dépôts pétroliers, 96 heures de blocage à partir de lundi à l'appel de la CGT, eh bien pas de panique, ce même conseiller rappelle qu'il y a eu plusieurs appels au blocage depuis qu'Édouard Philippe est à Matignon et qu'ils ont toujours fait flop. Pas d'inquiétude non plus pour les approvisionnements en carburant. Sauf qu'hier, 200 manifestants étaient déjà rassemblés devant la raffinerie Total de Donges en Loire-Atlantique et qu'au lendemain des vœux présidentiels, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a demandé un signal d'alarme plus fort, incitant tous les Français à se mettre en grève.
Et dès aujourd'hui d'ailleurs, une grève commence pour les professions libérales. Le collectif SOS Retraite entre dans le conflit. Avocats, médecins, infirmiers, pilotes de ligne, personnel aérien navigant, ils estiment que la réforme menace leurs régimes autonomes. Et il y en a qui sont mobilisés depuis 30 jours maintenant. Ce sont pour beaucoup des cheminots. Ils ont récolté pour les soutenir près d'1 million d'euros lors de leur cagnotte de grève. Après ce débrayage de 30 jours, il n'est plus question d'abandonner pour Bérangère et Jean. Ils travaillent à la SNCF depuis 10 ans.
J'ai pas fait 29 jours de grève pour lâcher au 30e jour. C'est impensable. Lâcher maintenant alors que justement c'est nécessaire que tout le monde s'engage dans le mouvement, non, enfin, il y en a hors de question. Même si les mois là à suivre vont être difficiles, on sera en mesure de pouvoir amortir ensemble les pertes financières. C'est vrai qu'à l'embauche, moi j'ai le souvenir des anciens qui me disaient clairement mets ton premier salaire de côté si tu peux pour pouvoir t'inscrire correctement dans la grève.
L'équivalent d'un mois de salaire de côté pour pouvoir assumer une grève si elle vient. Mais donc moi une journée de salaire c'est 53 euros. Je suis en bas, donc multiplié ça commence à faire. Tout le monde met des sous de côté. Nous, c'est pour anticiper des grèves, d'autres, c'est pour des sorties.
C'est des choix de vie et des priorités après que chacun se fixe, quoi.
Des propos recueillis par Cédric Hermel à la gare de Lyon à Paris hier. Au chapitre de la réforme, enfin, le gouvernement français et le fonds de pension BlackRock ont démenti hier tout lobbying de la part de la société américaine. Pas d'influence, disent-ils, lors de la préparation de la réforme des retraites. Les critiques à leur encontre avaient repris de plus belle mercredi lors de la promotion de la Légion d'honneur dans laquelle figure le patron de la branche française de BlackRock, Jean-François Cirelli. 5 ans après les attentats contre Charlie Hebdo, la France a été touchée par 18 attaques terroristes. Comment vivre sous cette actualité? Nous posons la question et nous débutons une semaine spéciale à ce propos sur France Culture. Cela commence avec un grand reportage consacré aujourd'hui au journal satirique Charlie Hebdo, visé il y a presque 5 ans tout juste donc par les frères Kouachi. 12 personnes y ont été tuées le 7 janvier 2015. Comment l'hebdomadaire parvient-il à perpétuer l'esprit Charlie aujourd'hui, malgré le deuil toujours présent, les menaces et les critiques? Quels sont les prochains défis pour ce journal qui va fêter ses 50 ans? Pour répondre à toutes ces questions, Antoine Maret a rencontré des membres de l'équipe actuelle de Charlie Hebdo. Parmi elles, le dessinateur Juin. Il a rejoint la rédaction en mai 2015, quelques mois après l'attentat. Et il ne veut pas oublier cet esprit Charlie.
C'est bien qu'un dessin vous dérange un peu, parce que sinon, voilà, ça passe comme ça. Un dessin, moi je trouve qu'il faut qu'on bute un peu dessus quand même. Il faut que ça soit un peu râpeux, quoi.
L'exemple d'un dessin qui a été râpeux pour vous?
C'est assez rare quand même les dessins qui... Ah si, il y a quand même un dessin de Driss sur lequel je savais pas trop sur quel pied danser ou quoi. C'était le dessin qu'il avait fait, c'était à Cologne au moment du réveillon. Que serait devenu le petit Aylan s'il avait grandi? Tripoteur de fesses à Cologne ou un truc comme ça. Donc voilà, on sait pas trop comment le prendre. Après, c'était surtout pour se foutre la gueule de tous ceux qui disaient que serait devenu ce petit enfant s'il avait grandi. Bah forcément, il serait devenu quelqu'un de formidable. Et là, c'était de ça qu'il se moquait, quoi. Il disait pas que tous les migrants étaient des ploteurs, quoi. Voilà, mais bon, moi j'aime bien les dessins où on n'a pas de mode d'emploi, où on ne dit pas il faut rire à cet endroit-là. Et voilà, j'aime bien quand on peut être un peu dans l'interrogation. Il a une durée de vie plus longue, quoi.
Charlie Forever, c'est le grand reportage de la rédaction d'Antoine Maret, réalisé par Annie Bro. Il sera suivi d'une discussion avec la journaliste et ancienne membre de la rédaction de Charlie Hebdo, Zineb El Razoui, et le sociologue Jean-Marie Charon, avec Aurélie Kiefer. Reportage à retrouver sur notre site franceculture.fr. Le temps de ce vendredi sera passagèrement pluvieux sur une grande partie du pays, plus lumineux autour de la Méditerranée, et les températures remontent avec 4 degrés ce matin à Besançon et à Lyon, 9 à Lille et Bordeaux, 10 degrés à Paris, Rennes et Marseille.